Impact, un roman de Éric Simon. Chapitre 7. 11 août 2025. Laurie venait de terminer son analyse primaire sur les 3 Skylinks supplémentaires qui avaient été déclarés perdus par la société texane. Ils étaient tous les 3 sur des orbites très différentes, à la fois en altitude et en inclinaison. Il n'y avait visiblement pas de lien entre ces 3 destructions. Elle était très inquiète de la situation, d'autant plus que la NASA venait de leur donner une information confidentielle sur la fragmentation d'un satellite espion russe. Les paramètres orbitaux de ce satellite et de ses fragments n'étaient pas connus avec précision, mais on savait que son orbite passait au-dessus de la mer de Chine et que son altitude était d'environ 400 km. Or, 2 des 3 Skylinks détruits, les 28 et 29 juillet, se trouvait sur une orbite à 360 km. Et l'un d'eux avait une inclinaison qui le faisait passer aussi au-dessus de la mer de Chine, et pouvait donc être assez proche du satellite russe, même si on ne connaissait pas sa trajectoire géocentrique exacte. Le troisième Skylink faisait partie de la couche à 550 km, comme ceux responsables de la perte de X-RISM. On ne savait vraiment pas grand-chose sur le satellite russe, outre le lieu de sa désintégration, au-dessus de la mer de Chine, et la date où elle avait eu lieu, le 5 août. On ne connaissait même pas l'heure. Officiellement, un membre de la NASA, qui devait rester anonyme, avait reçu une information confidentielle d'un haut responsable de l'agence russe, qui lui aussi resterait anonyme. La nature de ce satellite était elle aussi inconnue. On savait juste qu'il s'agissait d'un satellite d'observation et de surveillance. Il en existait des dizaines de ce type, de tous les âges. Il était d'ailleurs tout à fait possible que ce soit un satellite épave qui était en attente de rentrer dans l'atmosphère. On savait en revanche que ce n'était pas un nouveau test anti-satellite par tir de missile, ni une destruction volontaire par les Chinois. Laurie demanda à Lars s'il pouvait lui donner un coup de main sur l'analyse de ce qui avait pu se passer avec ces 3 satellites Skylink. Il arriva promptement dans son bureau où elle lui avait avancé un fauteuil pour s'installer devant le même écran. Statistiquement, le fait que ces 3 fragmentations ont eu lieu à un jour d'intervalle, ça implique un lien de cause à effet avec une forte probabilité, répondit Lars à la question que Laurie lui avait posée. Mais je ne trouve pas le déclencheur à partir des trajectoires. Est-ce que tu as fait varier les paramètres de dispersion des débris de Cosmos 1408 ? Lança Lars. Non, j'ai utilisé les paramètres du catalogue, répondit Laurie. On pourrait essayer de voir ce que ça donnerait en modifiant des paramètres de cet essaim, tu crois pas ? Il serait mal connu à ce point depuis 4 ans ? Rétorqua Laurie. Qui sait, ça vaut le coup ? Ok, allons-y. On commence par quoi ? L'élongation en longitude ? Si tu veux, on regardera la latitude et l'altitude après, répondit Lars, qui regardait à peine la jeune femme dont le parfum l'enivrait. Ils utilisaient un logiciel qui simulait les mouvements de débris spatiaux au cours du temps, à partir d'hypothèses de départ sur le nombre, la taille, les positions et les vitesses de chaque débris. L'essaim de débris produit lors de la destruction volontaire de Cosmos 1408, s'était déjà fortement dispersé depuis novembre 2021, et une quantité importante avait atteint l'atmosphère. Mais il restait environ 600 éléments de plus de 1 cm, en plus de ce qui restait du satellite. Une grande partie des morceaux plus petits que 1 cm n'étaient pas catalogués par manque de données de détection fiables. Ces débris subcentimétriques pouvaient néanmoins être très destructeurs sur n'importe quel engin qui croisait leur trajectoire. Laurie et Lars menaient l'étude paramétrique sur l'essaim particulier des débris de Cosmos 1408 avec une grande précaution, en testant des variations des paramètres les uns après les autres, puis ensuite ensemble. Ce qu'on pourrait faire pour avoir plus de précision dans le simulateur, c'est d'importer les toutes dernières données, dit Lars. De toutes les tailles, répondit Laurie. On peut mettre les plus de 1 cm pour commencer, et après on verra si c'est utile de descendre en dessous. Ok, on fait ça. Alors, pour importer, on fait ça. Tu fais import external data, là. Ensuite, je vais chercher dans le package SSN Haystack. Laurie, laissez faire Lars. Tu prends tout ou seulement l'essaim de Cosmos 1408? Oh, ça sert à rien de tout prendre ici. Ça ralentirait énormément le simulateur, répondit le jeune homme. C'est le nombre total des plus de 1 cm, là? Fit Laurie en pointant son index vers le haut de l'écran où apparaissait un nombre en rouge. Ouais, ça c'est le total mis à jour avec les dernières données en date, qui datent de ce matin. La date est là. Elles ne sont pas encore cataloguées, hein, celles-là, répondit Lars. On en est déjà à plus de 760 000. J'étais resté à 720 000. C'est possible, ça? Je sais pas, j'avais pas de chiffre en tête, moi. Tu peux afficher l'évolution en fonction du temps, s'il te plaît? Demanda Laurie. Ouais, je fais ça. Lars pointa sa souris sur le menu en haut de l'application pour aller chercher les fonctionnalités du mode expert qui permettait d'afficher des graphiques divers et variés sur les paramètres des débris qui se trouvaient dans la base de données des observations récentes. Une courbe de couleur rouge apparut à l'écran. L'axe des abscisses était le temps, qui allait du 11 mai au 11 août, et l'axe des ordonnées était le nombre cumulé de débris de plus de 1 cm qui avait été détecté. La courbe augmentait doucement, puis montrait un saut à partir du 11 juillet, qui correspondait à la fragmentation du Skylink 992008. Mais ce qui surprit Laurie et Lars, c'est ce qui se passait à la toute fin du graphe. Les 6 derniers points de la courbe étaient beaucoup plus hauts que les jours précédents. Il s'est passé quelque chose entre le 5 et le 6 août, lança Laurie avec une émotion palpable. Affiche les débris de plus de 10 cm. Lars s'exécuta. Il suffisait d'un clic et d'une sélection dans un menu déroulant. La nouvelle courbe s'afficha immédiatement en dessous de la précédente. Merde! Regarde ça! Ça augmente tous les jours depuis le 5 août. On en a presque 5 000 de plus en 6 jours, fit Laurie. Laisse tomber la recherche sur Cosmos 1408. On s'en fout maintenant de savoir qui a déclenché quoi. On est dans la merde là. Il va falloir essayer d'anticiper le futur maintenant. Ça donne quoi jour par jour? Fit Laurie. Lars tapota sur son clavier pour afficher le nombre de nouveaux débris détectés chaque jour. On vit s'afficher sur l'écran débris supérieurs à 10 cm. 1er août, plus 0, 2 août, plus 2, 3 août, plus 3, 4 août, plus 2, 5 août, plus 1, 6 août, plus 540, 7 août, plus 670, 8 août, plus 790, 9 août, plus 897, 10 août, plus 923, 11 août, plus 934. Il faut tout de suite prévenir O'Rourke. Tu viens avec moi? Lança Laurie. Ouais, bien sûr. Tu préviens pas Wemba? Non, pas le temps. C'est la merde, là. T'as compris ce que ça veut dire? Fit Laurie en se levant promptement. Kessler? Ouais, Kessler. On pourra sans doute rien faire, répondit Lars. Je sais pas, je sais pas. Laurie marchait d'un pas rapide dans le couloir sombre. Lars avait presque du mal à la suivre. Ils arrivèrent au niveau du bureau du colonel O'Rourke, mais Laurie frappa à la porte précédente, qui était celle de l'assistante personnelle du colonel. Bonjour Margot, est-ce qu'on peut voir le colonel O'Rourke tout de suite, s'il te plaît? C'est un cas d'urgence absolue concernant la surveillance des débris. Je l'appelle, fit l'assistante d'une voix douce en souriant. Une fois le téléphone raccroché, l'assistante les invita à entrer dans le bureau du chef du SSN. Bonjour mon colonel. Lars et moi, nous venons de découvrir qu'il s'est passé quelque chose entre le 5 et le 6 août. On observe une brutale augmentation du nombre global de débris, quelle que soit leur taille. Et le nombre de nouveaux débris est en augmentation chaque jour depuis cette date. Une augmentation continue? Fit O'Rourke. Oui. Ce n'est pas juste un pic correspondant à une fragmentation unique. Il y a des centaines de nouveaux débris tous les jours depuis cette date, répondit Lars. Je peux vous montrer, ajouta le jeune ingénieur. Montrez-moi ça, dit le colonel en se reculant pour laisser le clavier à Lars. Pendant que Lars se connectait sur la base de données qui répertoriait les données les plus récentes en provenance de Haystack, Laurie rappelait à O'Rourke comment ils étaient tombés sur cette évolution journalière des débris. En cherchant à améliorer une analyse à partir des dernières données actualisées pour faire varier les paramètres des débris de Cosmos 1408 dans l'analyse de la perte des trois Skylink de fin juillet. Alors voilà ce que donne la liste des débris de plus de 10 cm depuis le 1er août, lança Lars en pointant son index vers l'écran. O'Rourke regardait attentivement. On a environ 900 nouveaux débris de plus de 10 cm tous les jours depuis quelques jours, fit le colonel. Oui, c'est ça. Vous voyez que ça a commencé le 6 août, dit Lars. Pourquoi on ne l'a pas vu avant aujourd'hui ? Demanda O'Rourke. Ce sont les toutes dernières données qui sont remontées. Elles ne sont pas encore cataloguées et il n'y a pas d'alerte automatique sur ces données-là, mon colonel, répondit Laurie. Les données sont cataloguées après 7 jours et c'est à ce moment-là qu'une alerte automatique est générée, poursuivit Lars. On n'a jamais vu une telle évolution du nombre de débris. Effectivement, c'est affreux, répondit O'Rourke, et ça semble continuer en s'accentuant. J'imagine que vous avez compris ce que cela signifie, demanda O'Rourke. Oui, mon colonel, répondit Laurie. Un syndrome de Kessler. C'est la pire chose qu'on pouvait attendre, répondit O'Rourke. La pire. Irina Pradinova était tiraillée. Les gars de son équipe n'avaient trouvé aucune causalité possible entre la trajectoire du Lynx 005 et celle d'un satellite de constellation qui aurait produit des débris. En revanche, ils avaient trouvé une autre corrélation, certes faible, mais bien réelle, et c'était avec les débris de Cosmos 1408, le satellite d'écoute électronique des années 80 qui avait été détruit le 15 novembre 2021, par un tir de missile A-235 depuis le cosmodrome de Plesetsk, la même où ce satellite avait été lancé 39 ans plus tôt. Les analystes étaient formels. La plus grande probabilité d'une rencontre de débris par Lynx 005 au moment et à l'endroit où il se trouvait était avec des débris de l'essaim résiduel de K-1408. Aucun autre satellite parmi les plus de 10 000 répertoriés dans les données du ministère des Forces aérospatiales russes ne pouvait être associé à la fragmentation du Lynx 005. Irina ne savait pas comment elle allait présenter les choses au colonel Chromitine. Elle savait qu'il avait été partie prenante dans le test de destruction satellitaire de 2021. C'était lui qui avait choisi la cible, ce vieux tromblon qui restait inactif en orbite depuis 1984, aux environs de 650 km d'altitude. Il fallait maintenant lui annoncer qu'il venait de perdre un bijou de technologie de plus de 10 milliards de roubles à cause de ce test anti-satellite qu'il avait laissé faire et même encouragé. Elle ne pouvait pas mentir à son supérieur en lui disant par exemple qu'il n'avait rien trouvé. C'était facile, il suffisait de maquiller un peu les chiffres. Mais si elle lui disait la vérité, elle avait peur que sa réaction se retourne contre elle. Il ne pourrait qu'être fortement vexé, elle en était sûre. D'un autre côté, elle n'obéissait qu'aux ordres. Mais elle ne voulait pas que Chromitine mette son rapport directement à la poubelle, sans en parler plus haut. L'information qu'ils avaient trouvée était importante pour la haute hiérarchie. Irina se disait que c'était trop important. Elle décida finalement d'en parler directement au général Bogolyubov, avant de donner son rapport au colonel Chromitine. Le général lui dirait quoi faire, pensait-elle. Je souhaitais vous voir au sujet de l'étude sur l'origine de la perte du Lynx 005, mon général. Nous avons trouvé son origine probable, et cette information est sensible.
Avez-vous transmis votre rapport au colonel Chromitine ?
Pas encore, mon général. Il se trouve que le colonel Chromitine pourrait avoir un conflit d'intérêts par rapport à ce que dit notre rapport. C'est la raison pour laquelle j'ai sollicité cette réunion avec vous.
De quoi s'agit-il ? Comment le colonel Chromitine pourrait-il avoir un lien avec cette perte de Lynx 005 ?
Le test de destruction de Cosmos 1408, mon général, répondit Irina.
Expliquez-vous, fit le général.
Eh bien, tous nos calculs montrent que ce sont des débris de Cosmos 1408 qui auraient impacté et fractionné Lynx 005. Et comme vous le savez, le choix de ce vieux satellite pour le test a été fait par le colonel Chromitine.
Vous êtes donc en train de me dire que nous venons de perdre un satellite de surveillance à cause de notre propre test anti-satellite. Et vous êtes sûr de vos calculs?
Oui, mon général, tous les détails sont dans le rapport. Bogolyubov se pencha en arrière sur son fauteuil en soufflant bruyamment. Irina sentit la vodka de son haleine fétide. Après s'être frotté les yeux, le vieux général se redressa en tendant le bras vers la lieutenant-colonel.
« Donnez-moi votre rapport d'étude, et je vais vous demander de faire une chose. Vous allez simplement remettre une copie de ce rapport au colonel Kromitin, comme il vous l'a ordonné, mais sans lui dire que vous êtes venu m'en parler. »«
Bien, mon général. »
« Merci. Bon, ce n'est pas tous les jours qu'on subit un tir ami. Ce sont des choses qui peuvent arriver, hélas. Mais il est vrai que c'est particulièrement désastreux pour nous. »
Le colonel Kromitin assistait à la remise de médailles qui avait lieu sur la place Rouge en présence des familles des cosmonautes. Il faisait une chaleur écrasante alors qu'il n'était que 11 h du matin. Les valeureux cosmonautes qui avaient séjourné au moins 2 jours en orbite durant les 2 dernières années étaient décorés par le général Bogolyubov en personne pour leur dévouement sans faille pour l'exploration de l'espace. Ils étaient 4 à recevoir le titre honorifique de pilote cosmonaute de la Fédération de Russie. Depuis le début des années 90, cette distinction officielle était attribuée par le président de la Fédération de Russie aux cosmonautes qui avaient participé au programme spatial russe. Les cosmonautes recevaient un certificat d'attribution du titre ainsi que l'insigne des mains du général qui l'arborait lui-même fièrement sur le côté droit de sa poitrine aux côtés d'une dizaine d'autres. La médaille en forme de pentagone montrait le dessin d'un globe et une fusée qui décollait depuis le sol russe. À la fin de la courte cérémonie, le général Bogolyubov se rapprocha du colonel Kromitin et lui demanda
« Alors, Kromitin, ce rapport sur la destruction du lynx, vous en êtes où ?»
Des gouttes de sueur perlaient de la casquette du colonel.
« Je vais vous transmettre les résultats de nos analystes. Le rapport fournit une conclusion surprenante, mais je viens de recevoir une autre information de notre département de contrôle des satellites, qui donne une autre version que cette conclusion. Je vous présenterai ces 2 résultats cet après-midi, si vous êtes disponible. » « Très bien, venez me voir à 15 h. »«
Entendu, mon général. » Les 2 gradés se retrouvèrent dans le vaste bureau du général à l'heure dite.
« La conclusion de notre service d'analyse, comme vous le verrez dans ce rapport, dit que la destruction de Lynx 005 serait due à un impact d'un débris de Cosmos 1408, suite au test anti-satellite que nous avons effectué en novembre 2021. » « Le test que vous avez chaudement recommandé, n'est-ce pas ?» fit Bogolyubov. « L'état-major a pris la décision de ce test, mon général. Je n'ai été qu'un petit maillon de la chaîne. »«
Certes. Pour ma part, je n'ai jamais été partisan de ce test.
Bon, continuez. »
« Je dois préciser que cette conclusion repose sur des calculs probabilistes et qu'il subsiste une incertitude non négligeable. Comme vous le verrez, une telle collision avec un débris de K1408 est considérée comme probable à 98,5%. Cela est dû à la difficulté d'estimer la dispersion de ces débris en 3 ans et demi, poursuivit Kromitin.
« Donc, vous me dites que nous venons de perdre un de nos meilleurs satellites de surveillance à cause de notre propre test anti-satellite. Je ne sais pas comment pourra réagir le président quand on lui dira ça. »
Eh bien, justement, il est tout à fait possible que ce ne soit pas cette solution qui soit la bonne.
Dites-moi ce que vous avez trouvé, répondit Bogolyubov.
Le service de contrôle des satellites m'a fait parvenir la totalité de la télémétrie qui a été reçue en provenance de Lynx 005 jusqu'à la perte du signal. Et ce qu'on voit à la toute fin, avant qu'il n'y ait plus rien, c'est le signal X. Le signal X, c'est le code pour l'autodestruction.
L'autodestruction, marmonna Bogolyubov.
Il n'existe que 2 configurations pour l'autodestruction dans les Lynx. La première, c'est une défaillance du lanceur, soit durant le décollage, soit à la mise en orbite, si l'insertion est ratée. Et la deuxième, c'est la détection de mouvements anormaux qui signent une capture par un ennemi.
Où vous voulez en venir, Chromitin ?
Je pense que Lynx 005 a subi une tentative de capture par les Américains avec leur X-37B et s'est auto-détruit à ce moment-là, répondit Chromitin sans sourciller.
Est-ce que ça veut dire que le X-37B aurait été détruit en même temps dans la manœuvre dans ce cas ?
L'explosion produite par le système d'autodestruction des Lynx a été conçue pour être suffisamment puissante pour engendrer des dommages importants sur le vaisseau ennemi, mon général.
Pour avoir la preuve de ce que vous dites, il suffirait de savoir si le X-37B est toujours entier, n'est-ce pas ? Peut-on avoir cette information avant d'incriminer les Américains ?
Demanda Bogolyubov.
Nous savons que la navette américaine était en orbite le 5 août.
« Mais nous ne connaissons pas son orbite précise, » répondit Chromitin, qui voyait que Bogolyubov commençait à mordre à l'hameçon.
« Et si c'était les Chinois ?»
lança le général.
« Les Chinois ? Mais pourquoi feraient-ils ça ?» répliqua Chromitin. « Le Lynx 005 n'était-il pas en train de surveiller la mer de Chine et le détroit de Taïwan ?»«
Oui, c'est vrai, mais une action aussi belliqueuse venant des Chinois me paraît très improbable. » répondit le colonel.
Vous savez, avec les Chinois, faut se méfier. Hein. Ils disent rarement ce qu'ils font, et ils ne font pas toujours ce qu'ils disent, répondit Bogolyubov. Nos satellites Lynx ont certainement plus d'intérêt pour les ingénieurs chinois que pour les ingénieurs américains. N'est-ce pas nous qui avons copié les plans d'un satellite espion américain pour concevoir certains éléments du Lynx ? On peut penser que les Chinois se soient intéressés à la copie plutôt qu'à l'original, afin de brouiller les pistes, non ?
Peut-être, répondit Chromitin.
Ou bien ce sont juste des débris de Cosmos 1408, tout simplement. L'impact aurait aussi pu déclencher le système d'autodestruction, après tout.
Oui, c'est possible aussi, mon général, répondit Chromitin en baissant la voix.
« Je crois que nous allons rester sur cette version qui est plausible à plus de 98%, malgré la honte nationale qu'elle peut provoquer. Les autres versions me paraissent très spéculatives, sans nouvelles preuves convaincantes. »«
À vos ordres, mon général, » répondit Chromitin. « Je vais tout de même chercher des informations sur l'intégrité du X-37B. »«
Faites donc, »